Bonjour à tous, vous écoutez Politique Numérique alias Pollen, je suis Delphine Sabatier. Aujourd'hui, émission spéciale, et bien oui, parce que demain, enfin non, aujourd'hui, à l'heure où vous écoutez, vous, cette émission, et bien c'est la Journée internationale des droits des femmes. Alors on va parler de la place des femmes, et même au-delà de l'importance de la mixité, de la diversité dans les métiers et les filières technologiques, et puis des actions politiques, peut-être même législatives, qui pourraient s'avérer utiles dans ce domaine. Mon invité politique aujourd'hui, Martha de Cidrac, sénatrice LR des Yvelines. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été la secrétaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et puis aujourd'hui, vous êtes surtout une fidèle de tous les événements, de toutes les initiatives aujourd'hui autour des femmes dans le numérique, dans la tech. Vous êtes notamment la marraine de la dernière édition des Trophées européens de la femme cyber. D'ailleurs, on a une représentante du CEF6 que je vais présenter dans quelques instants. Comment vous êtes venue à vous impliquer autant sur cette question de la mixité des femmes dans le registre des technologies, dans ce domaine particulier ?
En fait, je dirais, cela s'est presque imposé à moi, puisque avant même de devenir sénatrice et donc membre de la délégation aux droits des femmes entre 2017 et 2020, comme vous l'avez rappelé, j'observais que dans beaucoup de domaines, la place des femmes n'était pas tout à fait à la hauteur à laquelle on espérait qu'elle le soit. Et le numérique m'a happée, puisque vous voyez, nous sommes dans une époque où en fait tout devient numérique, tout devient tech, tout devient objet connecté, tout devient réseau et médias. Je n'ai absolument aucune expertise dans ce domaine d'un point de vue technique. Moi-même, je suis architecte de métier. En revanche, il me semblait fondamental de pouvoir expliquer, informer à nos jeunes femmes quels sont les enjeux derrière les métiers de la tech pour les femmes, de manière spécifique. Nous sommes le 8 mars, donc il est important de le rappeler, mais aussi plus amplement pour notre pays et pour en fait tout ce qui aujourd'hui devient très prégnant dans notre société, à savoir l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'un aspect de tout ce qui est tech, hein, en matière numérique, mais je crois que je pense qu'on va revenir là-dessus. On voit bien qu'il y a énormément de biais qui sont liés en réalité à nos sociétés qui aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur ces sujets-là et qui deviennent en fait, cette intelligence artificielle devient un outil pour nous tous aujourd'hui, y compris pour les pouvoirs publics. Or, beaucoup de biais sont encore présent, y compris pour l'intelligence artificielle, à travers les informations de cette intelligence artificielle générative que l'on connaît tous et qui aujourd'hui reproduit des stéréotypes dont on voudrait véritablement ne plus avoir à parler.
Alors, également en studio avec nous, Martha de Cidrac, nous avons Manon Dubien. Vous connaissez bien, j'imagine, toutes les deux, puisque Manon, vous êtes la vice-présidente du CEF6, donc le Cercle des Femmes de la Cybersécurité. Vous êtes chargée des affaires de certification, de cybersécurité, au sein d'un grand groupe, à titre professionnel, mais à titre plus personnel, vous êtes très engagée donc en faveur de l'inclusion dans la filière de la cybersécurité. Comment est-ce que vous en êtes venue, justement, à rencontrer Martha de Cidrac, à l'impliquer dans vos événements?
Donc bonjour, merci de me recevoir, je suis ravie. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on connaît Martha. Quand je dis on, c'est le Cercle des Femmes de la Cybersécurité, puisqu'elle est très impliquée avec nous, elle nous soutient sur nos événements, donc notamment notre événement phare dans le domaine de la cybersécurité, donc qui est le Trophée des Femmes Cyber, donc à l'échelle européenne quand même. Et donc à ce titre, nous avons des marraines tous les ans. Donc on a le plaisir d'avoir...
C'est difficile de trouver chez les politiques justement des personnalités impliquée ?
Alors surtout que nous sommes une association apolitique, donc vraiment on est vraiment dans les actions terrain, hein. Donc tout le monde est bienvenu parmi le CEF6 et c'est très important quand même d'avoir des soutiens politiques puisqu'on n'a pas cette influence-là. Donc pour porter vraiment cette voie d'inclusion dans la cybersécurité, il est primordial d'avoir quelques politiques qui nous soutiennent, donc c'est pour ça qu'on est ravis.
Alors, à côté de vous, il y a un homme quand même en studio aujourd'hui, Guy Mamoumani, merci, bonjour.
Bonjour.
Entrepreneur, business angel, prof en école de commerce, conférencier, vous avez co-présidé pendant une vingtaine d'années l'une des premières entreprises françaises de services numériques, le groupe Open. Vous êtes aussi passé par la présidence du Syntec numérique, qui est devenu Numéum. Vous étiez le vice-président du Conseil national du numérique pendant un an ou deux, c'est ça ?
Oui, pendant 2 ans. Oui.
Pendant 2 ans. Vous avez récemment publié « Pour un numérique humain » aux éditions Hermann et vous êtes le cofondateur, c'est aussi, mais principalement, je dirais pour ça que je vous ai invité, de ce mouvement Hashtag jamais sans elle. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes dit, tiens, il faut absolument désormais que quand on nous sollicite pour des interventions publiques, eh bien, on n'y aille pas juste entre hommes, qu'on ait aussi des femmes à nos côtés.
Eh bien, tout a commencé quand j'étais président du Syntec Numérique, que j'avais lancé une commission Femmes du Numérique et on avait fait une étude à l'époque, qui reste encore valable malheureusement, hein, sur la présence des femmes dans le numérique. Et on avait trouvé qu'il n'y avait que 27% de femmes dans l'industrie du numérique. Et encore, j'insiste toujours pour préciser que ce chiffre est arrangé, parce que dans ces 27%, vous avez le marketing, toutes les fonctions transversales. Et si on se cantonne à la partie technique, et en particulier l'intelligence artificielle, comme l'a dit Martha, on se retrouve entre 10-15%. Et je suis dans des conseils d'administration, d'orientation, de l'EPITA, le SIEA, toutes ces écoles d'informatique, et c'est dramatique parce que ces chiffres ne s'améliorent pas. Et en fait, dans cet engagement, hein, depuis 15 ans, hein, je me suis retrouvé une fois dans une situation avec un échange de tweets où on mettait en avant qu'il y avait à l'Élysée une table ronde qui parlait du numérique avec 12 hommes. Et j'ai eu cette réaction instinctive de dire, bon, à partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde, une émission de radio ou de télé, s'il n'y a pas au moins une femme. Pourquoi ? Il faut quand même expliquer
et
ça.
Et oui, pourquoi ?
Parce que j'ai la conviction qu'une jeune fille qui va passer le bac, qui est excellente dans les manières scientifiques, si chaque fois qu'elle voit une table ronde, une émission sur le numérique, il n'y a que des hommes, elle dit, c'est pas pour moi. Mmh. Donc on a cette nécessité de mettre en avant le rôle modèle, de façon à ce que, eh bien, on attire des jeunes filles pour ces métiers qui sont si importants, comme on l'a déjà expliqué maintes fois. Hein. Alors, je tiens quand même à dire que cette association s'est parfaitement développée avec deux femmes fantastiques, hein, qui sont Tatiana Salomon et Nadia Kester-Séméon, qui ont fait un travail extraordinaire. Et maintenant, je crois qu'il y a près de 500 hommes qui ont signé cet engagement, ce qui est énorme. Mmh. Et puis, je voudrais dire aussi que j'ai soutenu le CEF6 depuis le début. Hein. J'ai été d'ailleurs membre du jury de ce comité et je soutiens toutes les associations.
Mais c'est ça aussi. C'est finalement un petit mot parce que vous connaissez aussi très bien notre intervenante à distance.
Évidemment.
Caroline Ramad. Bonjour Caroline. Merci beaucoup d'être connectée dans Politique Numérique. Alors vous êtes ancienne responsable de l'innovation de la mairie de Paris, directrice générale de Willa, ex-Paris Pionnière, qui est le plus grand incubateur de femmes fondatrices en Europe. Et puis, vous avez lancé 15 Tech en 2019 avec cette volonté de créer le réseau de référence des femmes dans la tech. Et puis, votre objectif, surtout, il tient dans ce nom, hein, 15 Tech, arriver à ce 50% de femmes dans la tech, dans les métiers technologiques, dans cette filière. Alors, je précise que vous êtes aussi administratrice du comité ONU Femmes France depuis 2018. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer depuis 2018-2019, Caroline ?
Alors, on va essayer d'être positif. En fait, les chiffres n'ont malheureusement pas beaucoup évolué quand même. On reste à 22% de femmes dans des rôles techniques en Europe, 17% en France. Ce qu'on a vu évoluer, je pense, c'est la question de la prise de conscience. Et la prise de conscience aussi des entreprises qu'elles avaient un rôle énorme à jouer. Moi, quand j'ai monté 15 Tech, qui est donc en fait qui crée des solutions tech pour féminiser la tech, donc on a une plateforme qui s'appelle Gender Hire qui permet d'aller sourcer des profils tech en France et en Europe, et on a développé un gender score qui permet aux entreprises d'aller basé sur leurs data et leur politique, leur faire de la recommandation d'action basée sur ce qu'on a vu qui marchait le mieux, et donc de les ranker aussi par rapport à des entreprises tech en Europe pour comprendre en fait là où ils pouvaient évoluer. Ce chiffre qui est absolument choquant et qui existe depuis quelques années, c'est qu'on a une femme sur deux qui quitte la tech après 35 ans pour des raisons de discrimination au travail. Et dans la cybersécurité, puisqu'on a des membres éminents du CEF6, je crois que c'est encore pire. Elle quitte, je crois, après 3 ans d'expérience, tellement en fait il y a trois, enfin on va dire il y a 4 problématiques majeures qui les font quitter la tech. C'est Elles sont bloquées dans leur carrière. Il y a un manque de progression des femmes dans les carrières tech, ce qui impacte la question du salaire. Il y a 19% d'écart de rémunération inajusté en Europe, ce qui est plus que la moyenne européenne, qui est à 13% pour le reste des professions. Et à 5% à compétences égales, expérience égale, ce qui, dans des carrières pénuriques, ne devrait pas exister. Le troisième point, c'est qu'il y a des problèmes de flexibilité et d'équilibre vie-pro-vie perso, puisque les politiques parentales ne sont pas bien mises en œuvre, avec des moyennes d'âge qui sont souvent autour de 29 ans. Le dernier point, c'est que dans des univers où vous avez 80-90% d'hommes, les stéréotypes s'appliquent et les remarques sexistes sont très communes, avec une remise en cause aussi de leur légitimité à être dans la tech, ce qui en fait les fait partir. Donc on a un enjeu, on a un enjeu de rétention. Et là, je voudrais apporter un message d'espoir aujourd'hui. Là, on lance un mouvement qui s'appelle No Woman No Tech et qui montre et qui se base aussi sur la dernière étude de McKinsey, qui je pense est assez fondamentale. On parle beaucoup d'éducation, ce qui est nécessaire, et là je rapproche tout ce qui est dit sur la nécessité d'amener les jeunes filles à la tech, mais tant qu'on n'aura pas des rôles modèles qui sont les mères, les cousines, les tantes, les copines, qui sont heureuses dans cette industrie, en fait, le butterfly effect, l'effet papillon, ne fonctionne pas. Et donc, cet enjeu de la rétention des femmes et de la promotion des femmes dans l'écosystème, elle est clé. Elle est clé pour créer ces rôles modèles et donc amener ces jeunes filles pour avoir plus de femmes dans les conférences, plus de femmes dans les entreprises, plus de femmes en haut niveau. Partout. Et il y a trois leviers que met en œuvre dans cette étude de McKinsey qui s'appelle « Comment closer la pénurie de talents en Europe » et qui démontre qu'on pourrait atteindre 3,9 millions de talents en plus rien qu'en focusant sur la rétention à trois endroits. Créer des cultures inclusives, donc accélérer le changement de politique interne dans les entreprises et veiller à ce que les questions de harcèlement soient réglées, tout ce que je viens d'évoquer, la transparence des salaires, le deuxième point, c'est les promouvoir. On a seulement une femme sur six exécutives en Europe dans la tech, alors qu'elles sont plus en bas de l'échelle. C'est pas normal, il y a une déperdition. Donc il y a un biais, quelque part, qui ne les fait pas progresser. Et le premier rang managérial est impacté. Et le troisième point, c'est qu'on a des jeunes filles qui font des STEM aujourd'hui, mais qui se retrouvent dans des écoles assez masculines et qui n'ont pas envie de rejoindre ces entreprises parce qu'elles ne leur donnent pas envie d'y aller. Donc, changer la culture, leur dire qu'elles vont être traitées différemment, qu'elles vont avoir des perspectives de carrière extraordinaires parce que la tech, c'est extraordinaire. Et bien, avec ça, dans les calculs de McKinsey, je vous ramène à cette étude, on pourrait atteindre 47% de femmes dans la tech d'ici 2050, juste en travaillant le biais, l'attaque de la rétention et de la promotion des femmes et l'attraction des femmes qui sont aujourd'hui dans les STEM et qui ne vont pas vers la tech. Donc, c'est vraiment un point qui est essentiel, je pense, dans ce débat. Et donc, la responsabilité sociétale des entreprises qui sont dans ce secteur, elle est essentielle.
Alors, vous disiez, Caroline, qu'en particulier dans la cybersécurité, on avait vraiment un problème pour retenir les femmes tout au long de leur carrière. Donc, je voulais vous faire réagir, bien évidemment, Manon. Vous êtes heureuse, vous, déjà, dans le poste? Alors,
moi, dans mon domaine, oui, très heureuse. Ouais. Moi, je suis toujours la seule fille. Donc, mais c'est vrai qu'on voit que 14% déjà de femmes dans la cybersécurité, maintenant 17%, ça évolue très, très doucement, trop doucement. Et pourquoi les femmes se rejoignent dans des associations pour se soutenir, parce qu'elles n'ont pas ce soutien-là en entreprise. Il y a une réelle souffrance et je rejoins totalement Caroline là-dessus. On voit que les entreprises, bien souvent, ne font absolument aucun effort pour intégrer les femmes.
Donc. Alors moi, j'ai reçu, c'était dans une autre émission, Fanny Forgeot, qui a été d'ailleurs célébrée lors des trophées européens sur la cybersécurité, sur les femmes cyber, pardon. Et justement, j'ai bien aimé qu'elle nous dise « Mais moi, tout va bien, en fait. Je m'amuse dans mon job. Je suis heureuse de travailler dans la cybersécurité. On est bien accueillis. » Alors, visiblement, elle est bien tombée.
Elle est très, très bien tombée. Ouais. Et c'est vraiment...
Mais c'est pas toujours le cas.
Elle a été aidée par les hommes. Enfin, vraiment, elle est dans une super entreprise.
Ouais.
Voilà, il y a vraiment une mentalité qui est extraordinaire chez Yogosha, chez qui elle travaille.
Ouais. Donc, on a besoin de ces rôles modèles. On nous dit c'est une question de responsabilité aussi sociétale des entreprises. Du côté du politique, comment est-ce qu'on peut s'emparer de ce sujet?
Alors, on peut s'emparer de différentes façons. Je souscris totalement à l'analyse qui a été faite. Évidemment, on ne peut pas la nier. Je pense qu'il y a le sujet, évidemment, de l'aval, c'est-à-dire une fois que les femmes sont formées, quelles perspectives de carrière ont-elles dans ce domaine-là. Mais il y a aussi, en fait, tout le travail, je pense, que les pouvoirs publics doivent faire en amont, à savoir vis-à-vis de nos jeunes filles et de nos jeunes garçons. Je crois que c'est fondamental, il faut le rappeler. Et je dis volontairement jeunes filles et jeunes garçons, parce que je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous, et qui nous concerne tous en tant que parents, au moment de l'orientation des formations que l'on donne aux petits garçons ou aux petites filles. On observe aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez à un salon d'étudiants pour essayer de... Les écoles essayent d'attirer tel ou tel jeune profil, inscrire tel ou tel jeune fille, jeune homme. On voit souvent que les parents n'orientent pas leurs filles vers ces métiers-là. Et ça, je crois que c'est un vrai, vrai sujet sociétal. Pour répondre à votre question, comment moi, en tant que législateur, par exemple, comment, en fait, les pouvoirs publics peuvent se saisir de ce sujet-là. Je crois qu'il est fondamental de rappeler deux choses très tôt. C'est vrai que ce n'est pas forcément dans notre culture française. Dès l'école, le collège, le lycée, je ne vais pas dire que c'est presque trop tard, mais dès le début de la scolarité, l'école républicaine, l'école de la France, doit pouvoir donner cette perspective aux jeunes garçons comme aux jeunes filles en leur expliquant deux choses. D'une part, on a besoin des jeunes femmes, on a besoin de cette ressource-là. 50% de la population, voire un peu plus, est quand même féminine. Comment se passer de cette manne, en fait, hein, de toute cette matière grise qui qu'on perd par la suite. Et puis, deuxième sujet aussi d'information, c'est que ce sont des métiers qui payent bien. Ce sont des métiers qui attirent. Or, nous sommes encore dans une société dans laquelle il y a le patriarcat, pardon cher Guy, mais qui est encore omniprésente. Et on a tendance à dire, on parle encore de chef de famille quand même, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait anodin dans l'imaginaire global que nous pouvons tous voir, entendre, y compris dans nos propres familles. Donc à un moment donné, je crois que pour les femmes, au-delà même du secteur de la tech, les pouvoirs publics doivent se saisir et il faut qu'on explique à tout le monde, garçons et filles, vas-y dans ce secteur-là, parce que c'est important, on reviendra aussi sur les biais, parce que dès lors que vous avez, par exemple, je reprends l'intelligence artificielle, des gens qui travaillent là-dedans, mais qui sont eux-mêmes complètement déformés par les biais sexistes de leur propre éducation, comment voulez-vous que l'intelligence artificielle ne devienne pas elle-même sexiste ? Premier sujet. Donc il nous faut des femmes dans ce domaine-là, au plus haut niveau, dans l'opérationnel lui-même. Donc ça, il faut que les pouvoirs publics trouvent les moyens de les encourager à travers des textes, à travers peut-être des contraintes légales. Il faut y réfléchir très sérieusement.
J'allais poser la question. Oui, allez.
Et le deuxième sujet qui est les finances.
Oui.
Moi, je plaide depuis toujours, quel que soit le secteur, il faut absolument expliquer aux jeunes femmes que ce n'est pas tabou de vouloir bien gagner sa vie. L'émancipation de la femme passe par là. Moi, je viens d'un secteur, le bâtiment. Je suis architecte de métier. Et à un moment donné, vous avez peut-être lu, entendu tout cela, dans les années 80-90, on disait « Waouh, génial, la profession d'architecte se féminise terriblement, génial !» Mais en fait, on voit bien que ça correspondait à une période où cette profession-là se paupérisait. Mmh. Voilà, donc cette petite anecdote, juste pour quand même vraiment cette petite alarme qu'il faut que nous ayons tous en tête, l'émancipation des femmes, quel que soit le domaine, va passer aussi par l'émancipation financière et la tech, pour moi, est un excellent vecteur, d'abord parce qu'on a besoin de femmes, et aussi parce que, c'est, je le dis toujours aux jeunes femmes, ça paye bien. Mmh. Allez-y, mesdames, allez-y.
Alors, oui, donc il y a cette partie sensibilisation qui est importante, mais est-ce qu'il faut aller au-delà, justement ? Est-ce qu'il faut imposer des contraintes sur cette mixité dans les entreprises ? Jusqu'où on doit aller ? Est-ce que les quotas, c'est une question récurrente qui revient sans arrêt sur la table. Je voulais avoir votre avis, Guy, puisque un chef d'entreprise, des contraintes, il en a un paquet. Est-ce qu'on en a besoin davantage ? Est-ce que ça fait partie des priorités ?
Alors d'abord, ce que je voudrais dire, et pour rebondir, c'est que on est quand même à l'aube d'un nouveau monde. Et c'est absolument impératif que les femmes se mobilisent pour être actrice de la construction de ce nouveau monde. C'est en ça que c'est aussi important. D'ailleurs, vous avez bien voulu citer mon dernier livre pour un numérique humain. Le sous-titre, c'est 8 conditions d'une transformation réussie. Et une des conditions, c'est bien celle-là. Mmh. Je l'ai mise en avant parce que ça me paraît impératif. Alors, quels sont les moyens, et en particulier législatifs ? D'abord, moi, j'étais contre les quotas, pour le... grosse discussion avec ma femme qui elle-même est contre.
Donc vous étiez d'accord.
On était d'accord. Oui, parce qu'elle dit, comme pas mal de femmes d'ailleurs, attention, moi je n'ai pas eu besoin de quotas pour faire ma carrière. Elle est devenue inspectrice d'éducation nationale, elle a réussi ses concours, et elle dit c'est pas la peine. Bon, alors au début j'étais d'accord avec elle. Et puis, il y a une réalité qui s'impose. On a vu que grâce à la loi sur les quotas dans les conseils d'administration, on est arrivé en France à 50%, bon, à peu près, hein, un peu moins. Voilà, pas tout à fait, mais on venait de 4%. Donc, il y a quand même une réalité. Sinon, on va attendre deux siècles hein, pour que ça se fasse. Donc, je suis maintenant partisan des quotas. Même chose en politique. Alors, évidemment, il faut faire attention parce qu'après, on vous dit, on va faire des quotas dans les COMEX. C'est un peu plus touchy parce que c'est compliqué, par exemple, dans une profession comme la nôtre, il n'y a pas de femmes. Donc, si vous voulez les mettre dans les COMEX, il faut qu'il y en ait plus. Donc, ça vient en amont. En revanche, quelque chose que j'ai tout à fait...
Il n'y a pas de femmes ou on ne les voit pas?
Non, non, on l'a dit, dans les écoles, vous êtes à 10-15%. Ouais. Hein, 15-17 peut-être. Hein. Alors, en fait, quand vous faites vos recrutements, vous vous retrouvez avec le même taux. Et donc, au bout du compte, dans un COMEX, vous vous retrouvez avec 2 femmes sur 6. C'est ce que nous avons chez Open. Mm-hmm. Alors, même si notre directrice générale, elle, est une femme. Hein, donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas d'ostracisme. Et ce que je voudrais ajouter aussi, dans le même cadre, c'est que moi, j'ai beaucoup soutenu, bien qu'elle ait été critiquée hein, par le MEDEF à l'époque et par pas mal de chefs d'entreprise, finalement, l'indice... Pénico, l'indice d'égalité salariale homme-femme. Bon, chez Open, on est, je crois, pour la 7e année consécutive à 94, et c'est quelque chose qui est important, parce que là, ça rejoint la problématique salariale qu'il ne faut pas oublier, en effet. Alors, Martha, vous l'avez mis en évidence, vous avez parfaitement raison. C'est bien beau de faire des déclarations sur l'égalité homme-femme, sur la promotion des femmes. Si au bout du compte, il y a une inégalité salariale, c'est inadmissible. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a beau faire toutes les contraintes qu'on veut, on ne peut pas forcer les jeunes filles à choisir ces métiers. Donc il va falloir se remettre en question dans nos entreprises, dans nos secteurs, dans nos associations, pour rendre ces métiers attractifs pour les femmes. Et ça marche. Regardez le travail qu'a fait Sophie Vigier à l'école 42.
Oui, c'est vrai.
Elle est arrivée, je crois qu'il y avait 5% de filles. Et maintenant, je crois qu'on est à 30 ou 35%. Mais elle s'est battue, hein, vraiment, de toutes ses forces pour y arriver. Mais elle a réussi quand même à faire progresser les choses. Et je pense qu'on doit suivre ce chemin.
Caroline, sur cette question de la contrainte, mais ça peut être punitif, mais ça peut être aussi une récompense. On peut aussi encourager par des mesures fiscales. Par exemple, ça a été proposé par la journée de la femme digitale. Donner un avantage fiscal aux entreprises qui seraient les bonnes élèves en matière de mixité.
Oui, tout à fait. Je pense que ça serait quelque chose de bien, de ne pas avoir que le bâton qui, de toute façon, démontre ses limites. Hein. Aujourd'hui, l'index EGAPRO, c'est bien, mais il a ses défauts. Et puis, beaucoup d'entreprises savent le détourner aussi, très bien, parce que sinon, on aurait plus de femmes en haut des organisations. Donc, ils sont en train de penser pour le rendre plus transparent. Et je pense que la transparence est un point qui va devenir essentiel avec, de toute façon, les directives sur la transparence des salaires qui arrivent dans les moins de 3 ans... en Europe, il y aura tout un enjeu autour de ces enjeux de transparence. Et donc oui, la récompense, je pense que c'est un bon point. Pour revenir juste sur ce que disait Guy sur les comités de direction, alors je diverge un petit peu parce que dans des comités de direction, on n'a pas que des gens dans la tech. Hein, donc je pense qu'on peut arriver à 30% sans trop de problèmes. Quand on voit que dans les startups, on n'arrive pas à répondre déjà sur la question des boards, nous, dans le gender score, on a fait passer à plus de 200 entreprises de la tech, et on est à peu près à 25%, donc elles sont complètement dans l'illégalité. et alors que j'ai par ailleurs au moins 3 à 4 demandes par semaine de femmes top niveau, qui en plus se sont formés au conseil d'administration et qui rêvent de rentrer dans ces entreprises.
Oui, c'est ça, peut-être qu'il faut ratisser un petit peu plus large finalement.
Oui, mais il faut ratisser plus large, mais aujourd'hui c'est les investisseurs qui décident, donc on prend toujours les mêmes, et comme c'est un peu moins régulé que dans des entreprises, je veux dire type Open ou CAC 40, hein, je veux dire, ça marche un peu moins. Le deuxième point, c'est que quand vous regardez aussi dans les startups, vous avez que 4% de femmes chief operating officer, donc dans les opérations, donc vous venez du business, absolument rien à voir, elles font plus de 50% des femmes dans les écoles de commerce. Donc, si vous voulez, c'est bien qu'elles ne sont pas promues à la hauteur de ce qu'elles pourraient faire. Et donc, il y a un enjeu de travailler ce champ de la promotion. Si on revient au quota, moi, je pense sincèrement que l'État a un énorme rôle à jouer sur notamment les écoles. Les écoles d'ingénieurs, je suis sûre qu'on leur mettrait un quota au démarrage, si on dit qu'on est à 15, à 25. Je peux vous jurer que l'ensemble des responsables d'orientation de France sauraient que c'est un métier qui est bien rémunéré et qu'il faut se bouger. Et ils enverraient plus de gens dans les collèges et les lycées pour pouvoir jouer la donne. Donc moi, je serais partisane d'un quota et puis des changements des méthodes de concours. D'ailleurs, il y a eu une augmentation du nombre de femmes qui sont rentrées dans les écoles d'ingénieurs qui passaient par concours pendant le Covid, parce qu'ils avaient arrêté les concours, comme par hasard, enfin, je veux dire, juste sur les notes. Hein. Donc, du coup, il y a un enjeu, moi, je pense, à ce niveau-là. Et puis, plus globalement, je voudrais remettre en perspective, parce qu'en fait, cette question, elle est très européenne et très nord-américaine, hein, le manque de femmes dans la tech. Et bon, je ne reviens pas sur l'histoire de pourquoi on n'a plus de femmes dans la tech depuis les années 80, mais dans les années 70, on avait 40% de femmes en computer science aux États-Unis. Donc, c'est l'apparition de l'ordinateur personnel qui aujourd'hui a produit une décélération jusqu'en 84, très profonde, et jusqu'en 2010, on n'a jamais réaugmenté sur les chiffres. Mais si vous allez dans d'autres pays qui ont fait des choix massifs de formation pour des raisons culturelles, hein, ou de différenciation d'appréciation des jobs, vous allez au Maroc, en Algérie et en Tunisie, vous avez presque 50% de femmes dans ces filières. Donc, ils ont fait des choix massifs. Donc, il y a une culture des mathématiques, certes, il n'y a pas de biais, elles y vont, elles font maths-sp, elles ont deux choix. Ingénierie civile ou programmation informatique. L'ensemble des leaders aujourd'hui de l'IA, beaucoup de femmes, la femme qui a inventé le métro automatique dans l'IA, c'est une Tunisienne, donc qui allait le refaire à Singapour. Et puis vous allez en Asie du Sud-Ost, et donc là vous avez 40 à 42% en Thaïlande et à Singapour. Donc là, pour vous montrer que la stéréotype et la perception, donc on a une vision très individualiste en Europe et en Amérique du Nord des jobs et de la profession sociale, là-bas c'est beaucoup plus collectif. Et donc, on est là sur une ressource qui va être utile. Et donc là, bah, les femmes, elles sont 40 à 42%. Et Isabelle Poulcollet a aussi démontré que, en Malaisie, où il y a eu à un moment donné 60% de femmes en computer science, ce métier est décrit comme un métier féminin. Alors attention, mes perspectives féministes sont heurtées quand je vais vous décrire pourquoi c'est un métier féminin, mais ça ne requiert pas de force, c'est propre et on peut le faire de chez soi.
Donc, d'accord.
Voilà, donc, pour vous montrer que le stéréotype et la construction du narratif autour du geek blanc et qui a commencé avec la constitution du hardware, qui était hard, et qui aujourd'hui est un software, donc devrait être soft, effectivement, devrait pas demander de force, et d'ailleurs une méthode de langage, donc pourrait intéresser des femmes qui sont très intéressées par la littérature, etc. Eh bien, on n'y est pas. Donc, on est extrêmement biaisé. Les maires sont plus biaisés, par exemple, en France qu'en Russie. On sait que les professions scientifiques sont des professions d'avenir. Donc, moi, je mettrais toute la chaîne de valeur sur, effectivement, pourquoi pas. Et aujourd'hui, imaginez, votre enfant est hyper doué en maths. Ma fille, elle est très douée en maths, la petite. Donc, je lui dis, oui, super, les mathématiques, machin, je la pousse. Mais honnêtement, elle est au niveau de Centrale Supélec, avec les cas de harcèlement sexuel au plateau de Saclay. Vous pensez, avec un directeur qui, bon, voilà, fait des choses, mais pas tant que ça, vous pensez que je vais mettre ma fille dans l'école qui va lui demander en plus de ne plus vivre pendant 3 ans, parce que pour rentrer dans ces écoles-là, il faut vraiment se sacrifier au niveau, je veux dire, il faut y aller, quoi. Vous y allez, et elle n'est pas dans un endroit safe.
Bah, enfin, aujourd'hui, ces affaires sortent. Je sais pas. Moi, je n'ai pas de conseils à donner à personne.
Non, mais ce que je dis juste, c'est
votre décision parentale. Mais...
Non, mais je vous dis juste qu'aujourd'hui, les écoles ont un rôle à jouer sur avoir plus de jeunes filles, faire de ces endroits des safe places.
Ouais. Alors ça c'est intéressant, c'est effectivement, parce que c'est vrai qu'on parle de l'éducation dès le plus jeune âge, la sensibilisation des petites filles, mais c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui de mesures qui adressent la question de l'entrée dans les écoles d'ingénieurs.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je voudrais prendre deux exemples, même deux anecdotes qui, effectivement, illustrent cela et sur lesquelles il va falloir que l'on travaille, peut-être même nous, au niveau législatif. Je ne suis pas certaine que ce soit toujours pertinent de tout mettre dans la loi, mais pourquoi pas. En tout cas, il faut ouvrir le débat. Je prends l'exemple, par exemple, de l'accueil au-delà du sexisme dans les grandes écoles. Aujourd'hui, dans les grandes écoles d'ingénieurs, lorsque, pardon, je vais être un petit peu triviale, le nombre de toilettes pour les jeunes femmes ne sont pas en adéquation avec l'accueil des jeunes femmes. C'est du quotidien.
D'ailleurs, pour revenir sur l'école 42, au départ, je crois qu'il n'y avait pas de toilettes hommes-femmes.
Voilà. Ouais. Et donc, pourquoi je parle de cela ? Parce qu'effectivement, il y a tout le sujet qui vient d'être évoqué sur du harcèlement éventuellement, sur du sexisme, sur des comportements inappropriés. Cela existe. Comme vous le dites, aujourd'hui, maintenant, la parole se libère. Donc, on peut espérer que tout cela s'améliore. Mais il y a l'aspect purement, j'ai envie de dire, matériel aussi de l'accueil des jeunes femmes. Je crois que là, il y a une vraie réflexion à se poser. De la même manière que le législateur aujourd'hui impose l'isolation thermique, je prends cet exemple parce que ça concerne le bâtiment, on peut peut-être imposer dans les écoles d'ingénieurs, dans les grandes écoles de la tech, que l'accueil matériel des jeunes femmes soit en adéquation avec leur genre. Parce qu'il faut quand même admettre que nous n'avons pas non plus les mêmes besoins et que c'est quelque chose qui est parfaitement audible.
C'est un sujet finalement qui va au-delà de la mixité, c'est le sujet de l'inclusion de tous.
Absolument. Ouais. Non mais tout à fait. Et donc je pense que ça c'est quelque chose qui est un petit peu sous les radars et qui fait que beaucoup de jeunes femmes, je vous en parle parce que moi je l'ai vécu dans ma famille. Moi j'ai des nièces qui à un moment donné se sont dit non ce truc-là c'est pas pour moi parce que si c'est pour que je me retrouve avec une bande autour de moi qui vont m'imposer leur mode de vie, jouer au foot et parce qu'il n'y a que ça comme règle... Ça m'intéresse pas. Première chose. Mais c'est valable même dans les toutes petites classes, dans les écoles. Vous savez que dans les communes, je suis sénatrice, j'ai ce défaut-là, dans les communes, quand on regarde la cour de récréation, comment elle est divisée aujourd'hui, on voit bien que le jeu pour les petits garçons occupe l'espace de la cour. Les petites filles arrivent dès toutes petites à contourner cet aspect-là et se crée en fait une autre façon d'occuper l'espace public. Donc je pense qu'on est au cœur même, c'est presque philosophique ce que je vais vous dire, mais la manière dont l'espace public aujourd'hui en France, je parle pour la France, je n'ai pas la prétention de savoir tout ce qui se passe dans le monde entier, pose une vraie question à un moment donné de se dire est-ce que nos espaces publics et donc nos écoles, notamment de la tech, sont conçus, prévus pour accueillir aussi les femmes ? Et au-delà de tous ces sujets aussi qui ont déjà été évoqués. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est important et sur lequel les pouvoirs publics peuvent réfléchir et peuvent s'améliorer, c'est certain.
Voilà. Juste, Caroline va nous laisser là dans quelques minutes. Je voulais vous interroger là-dessus parce que je disais, finalement, c'est une question d'inclusion de tous les publics aujourd'hui qui se posent. Est-ce qu'il y a une spécificité quand même sur la question de la femme dans la tech ?
Alors, une spécificité, pardon, comment ça ?
par rapport à la question plus large de l'inclusion numérique, c'est-à-dire de publics aux visages différents, variés, de toutes origines, à l'inclusion du handicap. Voilà. Est-ce que c'est le même sujet aujourd'hui, cette inclusion au sens large, et celui de la mixité ?
Alors non, c'est pas complètement le même sujet. Cela dit, si vous êtes une femme noire, avec un handicap, vous aurez des difficultés encore plus grandes. Aujourd'hui, on ne peut pas traquer sur la question notamment ethnique, mais il y a évidemment une sous-représentation complète puisque s'ajoutent des questions potentiellement de racisme ou de mauvaise intégration des profils en situation de handicap. Aujourd'hui, si vous regardez le handicap, invisible et visible, c'est 12 millions de Françaises et de Français. Donc on devrait en fait tous avoir des personnes en situation.
Mais je pense aussi l'origine sociale, tout simplement. Oui, alors, en quoi la question de la mixité pour vous est particulière ?
La question de la mixité, elle est particulière parce que les femmes, c'est 52% de l'humanité. Donc, déjà, on n'est pas normalement une minorité. Enfin, si vous voulez, on est une minorité dans la tech. Ouais. Donc déjà, il y a une espèce de chose qui est complètement contre-naturelle par rapport à ça. Et ensuite, il y a beaucoup d'études qui ont démontré, et ça j'y crois fermement, que quand on commence par déjà travailler sur le point de la mixité et de mettre les femmes en plus haut des organisations, et là je reparle de mon Living Lab qui était Willa, on avait une femme forcément cofondatrice, on avait 50% d'hommes et des profils extrêmement diversifiés en origine sociale, ethnique, dans l'incubateur, dans les employés. Je pense que de par notre éducation, qui parfois est d'ailleurs aussi stéréotypée, on est un tout petit peu plus dans une démarche de recrutement qui est plus large, un petit peu moins clonée. On voit les profils de manière différente, etc., etc. Et donc il y a toute une fois qu'on a diversifié déjà sur le genre, on peut plus facilement en fait adresser les autres domaines et on peut aller ouvrir. Et après, il y a des spécificités. Vous n'accueillez pas dans votre entreprise quelqu'un qui a de la neuro, qui a une neurodiversité ou un handicap physique, de la même manière que vous allez parler de la question des femmes, de la même manière que quand vous avez des enjeux d'origine sociale. Donc là, c'est que j'aime bien parler d'équité. On n'est pas sur la même échelle. Si vous voulez, l'échelle, elle peut être beaucoup plus haute pour certains que d'autres. Et donc, il y a des politiques qui existent pour pouvoir permettre d'adapter tout ça. Mais moi, je crois fermement que déjà en s'attaquant à la question de la mixité, on ouvre sur les autres sujets et qu'ensuite, il faut prendre les sujets un à un et trouver des solutions qui répondent à ça. Mais 52% de l'humanité, ça ne peut pas être 15% de femmes dans l'intelligence artificielle. Ça donne en Autriche Pôle emploi. Le chatbot basé et plugué sur ChatGPT, qui, sur le même CV, le même diplôme, recommande à un homme d'aller vers une carrière d'ingénieur, recommande à une femme d'aller vers des métiers du care.
Merci beaucoup, Caroline Ramad de 15 Tech, d'avoir été avec nous dans Politique Numérique. Nous, on va continuer un peu la conversation en studio. Guy, je vous ai vu quand même réagir sur cette histoire du manque de femmes aujourd'hui dans les COMEX, qui pourrait finalement être régler assez facilement, une question de volonté, nous dit Caroline.
Oui, je comprends ce que veut dire Caroline, mais si c'est pour avoir dans les COMEX la DRH, la directrice marketing, bon, on ne sait pas ça qui fera changer les choses. Moi, pour moi, il est très important de favoriser l'engagement des femmes dans la technologie. Voilà, c'est un petit peu ça qui m'a fait tiquer. L'autre point, bon, elle dit qu'il faudrait faire des quotas dans les écoles d'ingénieurs. Bon, alors ça, je pourrais être partisan, mais je l'ai vécu dans la création d'une école qui s'appelle le IA Institute. Donc, oui. C'est formidable, c'est une école qui vient d'être créée par le groupe Ionis pour avoir des spécialistes de l'intelligence artificielle. Bon, très bien. Alors évidemment, comme j'étais au conseil d'orientation, j'ai imposé qu'on parle de la mixité depuis l'origine, en parlant de l'ADN de cette école, qui doit être autour de la mixité, de l'inclusion, de la diversité. Tout le monde a dit ah, « bien sûr, tu as raison ». Et ils ont démarré l'école. Mais si vous n'avez pas de candidate, eh ben oui, le résultat, il est un peu mieux qu'ailleurs. Bon, je crois qu'ils sont à 25%, quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais non, ils sont très loin des 50%. Mais c'est normal, puisqu'il n'y a pas de candidate. Donc, vous faites tous les salons que vous voulez, tous les appels d'offres que vous voulez. Vous favorisez les candidatures de femmes. Ben, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, le sujet, pour moi, essentiel, c'est d'aller le plus en amont possible. Je crois que Martha l'a évoqué.
Après, on pourrait mesurer une progression, peut-être, les efforts fournis ou les dispositifs mis en place pour essayer de travailler ce sujet de la mixité.
Je pourrais vous parler d'une autre école qui est l'EPITA, qui a fait d'énormes efforts depuis 15 ans. Et bon, ça monte à 10%, ça redescend. Enfin, je crois vraiment qu'il y a un souci le plus en amont possible. C'est pour ça que je trouve que l'initiative de Blanquer à l'époque d'introduire le coding à l'école, de faire le CAPES informatique, la création d'informatique sont de très très bonnes choses,
ouais.
Même si par ailleurs il a fait une grosse bêtise sur la question de l'option mathématique. Bon, mais disons que plus on formera le plus tôt, pas forcément avec des écrans d'ailleurs, j'insiste là-dessus, vous savez qu'il y a des outils comme Colori par exemple qui permet de faire de l'informatique sans écran dès le plus jeune âge. Et donc, plus on favorisera cela, et j'ai la conviction qu'au bout du compte, eh bien, les jeunes filles, très naturellement, iront vers ces métiers-là. Et je voudrais juste faire une petite anecdote sur ce sujet. J'étais à une table ronde avec le directeur d'une école d'ingénieurs qui a mis sur le tapis, justement, la proposition de Caroline, en disant, dans mon conseil d'administration, j'ai dit, on devrait faire des quotas pour avoir plus de filles. Eh bien, qui s'est opposé ? La représentante des étudiants, qui était une femme, et qui a dit, non, il ne faut pas faire ça, parce que ça va dévaloriser.
Ouais, ça c'est toujours
ce diplôme. Ouais. Voilà, on a toujours
ce problème face au quota.
Voilà, cette même discussion
qui réveille le syndrome de l'imposteur.
Ouais. Moi, d'ailleurs, je l'ai contredit. Je trouve qu'on devrait quand même y aller quand même. Mais il faut quand même savoir qu'il y a ce type de réflexe.
Mm-hmm. Manon, comment vous en êtes arrivé vous à rentrer dans la cybersécurité ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors, vous êtes notre rôle modèle aujourd'hui dans l'émission.
Non, j'ai toujours cherché du sens dans ce que je faisais, en tout cas en termes de travail, vu que je suis chargée d'affaires. J'avais envie de vendre quelque chose qui me passionne en fait tous les jours, donc je suis allée consciemment vers cette voie, parce que ça m'a tout de suite intéressée, passionnée. J'ai vu un aspect tout à fait international. Donc je tiens quand même à avoir un discours très très positif, parce que la cybersécurité, c'est vraiment la filière où il y a énormément de mixité. L'anglais est absolument obligatoire, voire même l'arabe, le russe. Enfin, toutes les langues pour contrer les menaces cyber sont très importantes. Et la mixité, on a des rôles modèles qui viennent d'absolument partout. La présidente de l'association Nassira Salvan vient d'Algérie, mais derrière ça, elle est très opérationnelle et on veut voir des femmes réussir, des rôles modèles opérationnels pour avoir envie en fait de suivre cette voie et de se dire bah oui, on est capable de réussir nous également. Donc je pense que l'aspect rôle modèle est très 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 important.
Mais quand vous avez annoncé à votre entourage que vous alliez travailler dans la cybersécurité, quelle a été la réaction ?
Alors moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai trois filles, j'espère qu'au moins une ira dans la cybersécurité, mais me voit tous les jours épanouie dans mon boulot. Donc je pense que même l'image des parents, quand il y a une rôle modèle à la maison qui se sent épanouie dans ce qu'elle fait, eh bien elles vont se dire oui, je pourrais le faire demain. Je suis même partie faire un atelier dans l'école d'une de mes filles pour parler de l'usage du numérique, donc pour les enfants. Ils ont adoré, donc vraiment je suis d'accord sur cet aspect de communication au plus bas âge. Et nous, c'est ce qu'on fait dans l'association. On fait de la sensibilisation, on forme les membres, on propose du mentorat. Donc, plus on accompagne ces jeunes filles, plus les promotions de filles vont augmenter. Donc, vraiment, dans les écoles, il faut qu'il y ait plus de filles. Mais comment elles vont pouvoir se sentir un peu attirées ? Déjà, il va falloir leur expliquer tous ces métiers, valoriser ces métiers qui ne sont pas que techniques. Oui, il y a de la technique, mais il y a de la gouvernance, il y a du management de projet. Donc, le champ des possibles est immense, en fait, dans la cybersécurité. Donc, plus on valorise ces métiers, plus ils sont compris et plus les jeunes filles se disent bah oui, je vais y aller, je vais m'éclater.
Et je pense à France Travail, par exemple, parce qu'il y a toutes ces reconversions aujourd'hui qui s'imposent à nous. C'est terminé les longues carrières dans une seule et même organisation. Au niveau de France Travail, est-ce qu'on a une approche spécifique sur les métiers du numérique ? Est-ce qu'on encourage les femmes ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique de pousser sur la mixité dans les filières tech ?
Pour être tout à fait précise, par rapport à votre question très précise, non, pas spécifiquement. Ouais. C'est quelque chose qui effectivement est évoqué, mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation spécifique par rapport à cela. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous avez des personnes qui recherchent un emploi, on leur envoie en réalité un certain nombre de propositions qui existent ou pas, et voilà, ainsi se détermine le choix.
Alors si c'est un algorithme qui décide quelle formation on envoie à qui, ça peut être un problème.
Justement. Alors si on aborde le sujet des algorithmes, je pense qu'il y a une vraie réflexion qu'il faut que nous menions collectivement, y compris le législateur, puisque les algorithmes sont faits à un moment donné sur la base de données qui existent, qui elles-mêmes aujourd'hui sont encore de la production humaine, en fait, en tant que telle. Et donc là-dessus, il y a un vrai travail de réflexion, un vrai travail aussi de base de données que l'on a ou que l'on n'a pas. Il faut savoir aussi, vous avez Manon a évoqué les langues également, mais aujourd'hui, en termes de base de données, nous avons très peu de données en français. C'est quelque chose aussi qu'il faut que nous ayons en considération. Mmh. On sait bien que la langue est aussi vecteur d'un certain nombre de comportements, de valeurs et ainsi de suite. Donc moi, en tant que législateur, c'est un sujet qui ne me laisse pas insensible, vous vous en doutez bien. Mais il y a aussi deux choses, moi vraiment, pardon, je vais me répéter un petit peu, qui me semblent fondamentales aujourd'hui, une journée le 8 mars où on s'adresse pour beaucoup aux femmes, mais également aux hommes. Premier, je dirais, étage de la fusée, dans tous les secteurs, évidemment, il faut promouvoir la réussite de nos jeunes femmes, quel que soit le métier, et particulièrement les métiers de la tech. C'est fondamental. Il faut apprendre à nos jeunes femmes le plus en amont possible, à nos jeunes filles même, qu'il est très épanouissant, Manon l'a très bien rappelé, je la remercie, qu'il est très épanouissant de réussir sa carrière aussi. J'utilise volontairement ce terme-là qui parfois n'est pas accolé au parcours d'une femme.
C'est vrai.
La carrière d'une femme est épanouissante et c'est heureux. C'est heureux. Mais aussi que derrière une carrière, il y a du pouvoir et de l'argent. Cela, il faut aussi que les jeunes femmes aujourd'hui l'intègrent. Moi, je pense aussi que nos jeunes femmes, mais nos jeunes hommes aussi, hein, mais, sauf que eux, par un tropisme naturel, s'y intéressent beaucoup plus, ne sont absolument pas formés, en réalité, à l'économie. Dans nos formations alors que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est assez naturel, somme toute. Ça, c'est un véritable enjeu sociétal, de mon point de vue. Les parents, deuxième enjeu très sociétal, toujours dans cette partie en amont. Il faut que les parents encouragent autant leurs garçons que leurs filles et à aller vers, alors surtout lorsqu'ils sont bons en mathématiques, lorsqu'ils sont bons dans les filières scientifiques, qu'ils y aillent. Indépendamment de ce qui pourrait les attendre. Parce que la crainte, on l'entend. Ah, ma fille, non, tu vas pas aller dans cet univers d'hommes, tu vas te faire flinguer, ça va être difficile pour toi, enfin non, laisse tomber. Va vers le care, va vers le social, va vers le littéraire. Non, et je pense qu'il faut véritablement se battre là-dessus. Je n'ai pas la solution ce matin, mais les pouvoirs publics doivent se saisir de ces questions-là. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a un véritable enjeu de société pour nous tous, qui est, vous l'avez évoqué justement, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, que sont nos algorithmes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'impose de plus en plus, y compris dans les RH. Donc, lorsque vous avez des profils qui sont identifiés et, comment dire, décrits pour embaucher quelqu'un, quel que soit le poste d'ailleurs, dans tous les domaines, sur la base d'algorithmes qui vont aller chercher l'information dans les bases qui existent, mais qui elles-mêmes sont encore malheureusement beaucoup trop imprégnées de sexisme, comment voulez-vous qu'à un poste donné, on préfère une femme? Et là, nous avons des chiffres là-dessus aussi. C'est un vrai sujet. Et ça rejoint à un moment donné ce que Guy évoquait, c'est que après, on n'a plus la ressource. Donc du coup, moi, là, je vais aller un tout petit peu à l'encontre de ce que disait Guy. L'amont, pour moi, est fondamental. Là, il y a véritablement un sujet de politique publique, je le concède. Mais il y a quand même l'actuel, c'est-à-dire l'aval. C'est vrai, j'entends ce que dit Guy, mais peut-être qu'il faut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il faut quand même insuffler, je vais le dire comme ça, un tout petit peu de contrainte pour que quand même on puisse aller chercher, parce que dans un COMEX, là aussi, c'est un enjeu de pouvoir, c'est un enjeu décisionnaire et il n'y a pas de raison que ce soit que de la matière grise masculine qui fonctionne et qui décide pour les entreprises ce que l'on doit être sa stratégie ou pas. Il est fondamental que la matière grise féminine aussi puisse s'exprimer dans ces enceintes qui sont des enceintes de pouvoir, qui pour moi me semblent fondamentales. Donc je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Vraiment la structure, le squelette, la base. Et là, après, à un moment donné, ça ne sera même plus un sujet. C'est un monde dont on rêve tous. Mais le monde étant ce qu'il est, eh ben, il faut aussi agir là, tout de suite et maintenant. Même si ça peut sembler pour certains secteurs, pour tous les secteurs, j'ai presque envie de dire, une forme de contrainte. On ne peut pas la nier.
C'est difficile de trouver des profils, des candidates pour les trophées de la femme cyber ?
Non, pas du tout. Par contre, ce qui est plus difficile, et moi je tiens vraiment à... Je suis admirative de tout ce que vous avez fait, Guy, parce que ce qui est très difficile, c'est de faire parler des expertes. Aujourd'hui, dans la cybersécurité, les hommes ont totalement le monopole des prises de parole. Hein. Que ce soit sur les tables rondes, les conférences, tous les événements, ils ont le monopole, ils savent s'exprimer et ils ont raison d'y aller. Donc aujourd'hui, il est important que les femmes soient intégrées dans ces prises de parole, parce qu'elles en sont tout à fait capables à la même hauteur. Et surtout... Qu'elles y aillent à fond et qu'elles s'expriment également. Comme ça, on aura une parité autour des échanges. C'est très important.
Je voulais ajouter... Parce qu'il y a aussi une responsabilité des femmes.
Alors, je vais faire un clin d'œil.
Parce que dans le jamais sans elles, oui. On en parle souvent, Guy. Mais moi, j'ai souvent des difficultés, finalement, à faire venir les femmes autour d'une table, en plateau, en studio.
Et les candidates des trophées, elles sont là. Il y en a beaucoup, elles sont très heureuses.
Il y a souvent le complexe de l'imposteur chez les femmes. C'est une réalité.
Delphine, pour être témoin que j'ai refusé de venir dans une émission. Et j'ai réussi à faire changer beaucoup de tables rondes comme ça. Et pourquoi je voulais faire un clin d'œil, c'est que je me rappelle il y a une dizaine d'années, dans un salon de la cybersécurité, je m'étais bagarré avec l'organisateur pour qu'il invite Nassira à une table ronde, alors qu'il ne voulait pas. C'était incroyable. J'ai dit, mais attends, il faut lui donner la parole.
Et est-ce que vous me permettez juste une petite parole ? Je pense que nous, les femmes, il faut qu'on se nomme. Il faut que nous soyons identifiées. On ne parle pas des femmes. Il y a des femmes des individualités. Et en politique, c'est un exercice que moi, je m'impose, même lorsque je suis face à une adversaire, entre guillemets, politique. Lorsqu'elle s'exprime, je la nomme. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec elle, et je la nomme, mais voilà. Les hommes le font très bien, observez bien. Lorsque nous sommes dans des réunions, les hommes se renvoient la balle. Les femmes, nous n'avons pas encore ce réflexe-là.
C'est
et
vrai,
mesdames, renvoyons-nous
souvent.
La balle. Ouais. Et je vous assure que ça ira quand même un petit peu mieux dans l'espace public.
C'est pas ce que j'ai fait. Hein,
ah non, non, mais pas, non, 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 mais qui, justement, je rebondissais par rapport à ce que tu disais et qui est tout à fait vrai.
Guy Mamoumani, notre homme modèle. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce débat assez exceptionnel en cette journée du 8 mars. Merci à Madame de Sidrac, sénatrice des Yvelines, et puis merci beaucoup à Manon Dubien. Et je remercie aussi Caroline Ramat qui était avec nous tout à l'heure. Voilà, c'est fini pour Politique Numérique. Notre réalisateur, c'était Stéphane aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, puisque Politique Numérique est hebdomadaire. Et pour surtout ne rater aucun épisode, eh bien, inscrivez-le dans vos favoris sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite.